Chers amis des cellules, bonjour et un bonjour particulier à ceux qui viennent découvrir les cellules paroissiales d'évangélisation pendant ce temps de carême. Je vous propose aujourd'hui de réfléchir à partir du psaume que nous entendrons dimanche prochain à la messe, c'est-à-dire le psaume 136-137. Ce psaume est une lamentation des Juifs exilés à Babylone après l'invasion du roi Nabuchodonosor en -587. Nous allons écouter le psaume avec les quatre strophes qui seront présentes dans la liturgie de dimanche, mais je vous rajouterai aussi les deux dernières strophes que l'on n'entendra pas dimanche et qui pourtant font partie de ce psaume et qui nous serviront à réfléchir sur le traitement de la colère. Je vous lis le texte. Au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions, nous souvenant de Sion. Au saule des alentours, nous avions pendu nos harpes. C'est là que nos vainqueurs nous demandèrent des chansons, et nos bourreaux des airs joyeux. Chantez-nous, disaient-ils, quelques chants de Sion. Comment chanterions-nous un chant du Seigneur sur une terre étrangère, si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite m'oublie? Je veux que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir, si je n'élève Jérusalem au sommet de ma joie. Et voici les deux dernières strophes que nous n'entendrons pas dimanche. Souviens-toi, Seigneur, des fils du pays d'Édom, et de ce jour à Jérusalem où ils criaient « Détruisez-la, détruisez-la de fond en comble !» Ô Babylone misérable, heureux qui te revaudra les maux que tu nous valus, heureux qui saisira tes enfants pour les briser contre le roc. Fin de la lecture. Le psaume évoque dans sa première strophe le souvenir éploré que les exilés ont de la montagne de Sion, une colline sur laquelle est bâtie Jérusalem. La strophe numéro 2 évoque la demande d'être divertis par des cantiques joyeux et exotiques de la part des Babyloniens, qualifiés, vous l'aurez remarqué, non seulement de vainqueurs, mais aussi de bourreaux. Cela aura son importance par la suite. La strophe numéro 3 manifeste un double sentiment, celui de l'impossibilité de chanter un chant de Jérusalem alors qu'ils sont en exil. Cela est trop douloureux. Et en même temps, le refus d'oublier Jérusalem. On aurait pu souhaiter l'oubli pour fuir le souvenir déchirant. Ce n'est pas le chemin choisi. La strophe 4 manifeste un refus catégorique de sombrer dans l'oubli. Jérusalem était la ville qui faisait le sommet de leur joie, capitale de la terre promise, lieu où vivait le roi de la lignée de David, ville où le temple du Seigneur avait été bâti. Ils n'effaceront pas de leur mémoire les signes de l'Alliance. Viennent alors les deux dernières strophes que l'on n'entendra pas ce dimanche, mais qui font bien partie du psaume et qui souvent sont notées entre crochets. Ce sont deux strophes imprécatoires. Qu'est-ce que ça veut dire, imprécatoire? Ce sont des strophes qui se plaignent des torts que les ennemis leur ont fait subir et qui expriment la colère, voire la rage du psalmiste. On les omet régulièrement parce que leur violence est difficilement compréhensible sans commentaire. Je vous propose donc d'en faire le commentaire parce qu'elle nous donne un enseignement précieux sur le traitement de la colère. Nous y trouvons une expression de la rage qui est en eux, à la fois au souvenir des cris de destruction des auxiliaires venus du pays d'Édom dans l'armée de Babylone, où ils criaient au sujet de Jérusalem « Détruisez-la, détruisez-la de fond en comble !» Ce cri a marqué leur cœur, ce cri résonne dans leur mémoire. Mais encore une rage qui s'exprime lorsqu'ils disent « Heureux qui te revaudra Babylone les maux, les malheurs que tu nous valus, heureux qui saisira tes enfants pour les briser contre le roc. » On dit « Mais c'est abominable ça !» Oui, c'est abominable, mais c'est ce qu'ils ont subi. Les Babyloniens étaient réputés dans le Moyen-Orient pour leur cruauté, et de fait, lorsqu'ils ont pris Jérusalem, c'est ce qu'ils ont fait, Ils ont pris les nouveau-nés et les ont fracassés contre les murailles. Et ça, les habitants de Jérusalem ne peuvent pas dire « il ne s'est rien passé, ce n'est pas grave ». Le psaume décrit le sentiment rageur, la violence de la colère qui est en eux suite à ce qu'ils ont subi, suite à l'injustice qu'ils ont subi. Et d'ailleurs, il est important de faire le rappel suivant. La colère, avant de parler du péché capital de la colère, c'est d'abord ce qu'on appelle une passion de l'âme, c'est-à-dire un mouvement de l'âme, une réaction de l'âme qui nous permet de ne pas être complice ou indifférent face à l'injustice. La colère, c'est d'abord le mouvement, la réaction de l'âme face à quelque chose d'injuste, et qui nous permet, parce que justement on est remué, de ne pas être indifférent, bon, ça me concerne pas, tant pis si un tel se fait agresser par trois autres personnes. Et c'est ce qui nous permet aussi de ne pas en être complice, de dire « ah ben, il y en a trois qui l'agressent, ben, autant m'y mettre aussi, profitons de l'occasion ». Non, la colère, c'est ce mouvement de l'âme qui, justement, a en horreur l'injustice. C'est donc un mouvement naturel à la base. Ces deux strophes montrent que les habitants de Jérusalem déportés ne peuvent oublier ce qu'ils ont subi, ce qu'ils ont vu de leurs yeux, ce qu'ils ont éprouvé dans leur chair. Ils ne peuvent pas dire « ce n'était pas grave » ou « il ne s'est rien passé ». Ça crie en eux. De façon ordinaire, la colère nous mène à l'une ou l'autre des deux attitudes suivantes. La première, c'est ce que l'on appellerait une colère chaude ou rouge, c'est-à-dire une colère qui s'exprime, qui crie, qui déborde à la manière d'un volcan, quitte parfois à aller trop loin, quitte à déborder sur des gens qui n'y pouvaient rien, quitte à aller dans sa rage au-delà même de ce qui avait été subi. Et donc, elle risque de mener à une nouvelle injustice après l'injustice subie. Elle risque de nous mener à causer nous-mêmes une injustice suite à l'injustice que nous avions subie. La deuxième attitude, c'est ce que l'on appellerait la colère froide, la colère blanche. C'est-à-dire, c'est une colère qui ne s'exprime pas, mais qui reste en nous-mêmes. On garde en nous-mêmes cette espèce de bouillonnement, ou plutôt, je prendrais l'image du lac d'acide. C'est en nous que cela ronge, on ne l'extériorise pas, mais à l'intérieur de nous-mêmes, on en est rongé et on en est aussi détruit. On voit que ces deux attitudes amènent finalement à une destruction soit de soi-même, avec la colère blanche, la colère rentrée, soit de l'entourage avec la colère chaude qui déborde comme un volcan. Les strophes 5 et 6 de ce psaume 136-137 nous ouvre un troisième chemin. Une autre attitude est suivie ici. Examinons-la. Le psalmiste demande justice à Dieu. Le psalmiste demande justice à Dieu en lui confiant sa colère et sa rage telles qu'elles sont. Il ne cherche pas à la minimiser. Il ne cherche pas à la camoufler. Il présente au Seigneur, j'allais dire, toute la violence qui jaillit en lui. Une violence qui, en fait, est déjà là. Une violence dont il ne sait pas que faire, d'ailleurs, peut-être, et il la fait monter vers Dieu. Il ne la nie pas, il ne la met pas lui-même en pratique, il la fait monter vers Dieu. Et oui, il y a quelque chose de remarquable là. Ce n'est ni un déni de justice, ni un oubli de la justice, et en même temps, il ne se rend pas lui-même justice, et renonce du coup au fait de devenir bourreau. On a toujours la tentation de se faire soi-même bourreau contre ceux qui nous ont fait du mal. Le psalmiste, en demandant que Dieu rende justice, se refuse à devenir lui-même un bourreau, quand bien même il y aurait en lui assez de violence pour qu'il le fasse. Il reconnaît sa rage, mais au lieu d'exercer une vengeance par lui-même, il demande que Dieu lui rende justice. Et cela ouvre la possibilité, en particulier pour nous qui connaissons justement le Christ qui est venu sauver les pécheurs, qui est venu à la fois consoler les victimes, les sauver de la mort, mais aussi offrir un chemin de conversion, cela ouvre la possibilité de ce que j'appellerais un échange de cœur pour nous qui connaissons le Seigneur Jésus. Car c'est vrai, il n'y a que le cœur du Seigneur Jésus qui peut dire du haut de la croix, « Père, pardonne-leur ». Et ce « Père, pardonne-leur » n'est pas de la part de Jésus un signe de « ce qu'ils ont fait n'était pas grave, il ne s'est rien passé ». Le Christ ressuscité, d'ailleurs, montrera ses stigmates. L'histoire a bien eu lieu, il a bien été mis à mort par la malice des hommes. Mais le Christ va ouvrir un autre chemin que celui de la destruction du méchant. Le Seigneur est venu détruire le péché, mais par un autre moyen que la destruction du méchant. Rappelons aussi que si le désir de pardonner est à notre portée, la capacité de le faire, la capacité de pardonner, est elle un don de Dieu. La capacité de pardonner est un don de Dieu. Ce psaume nous ouvre ainsi à une démarche pour sortir de l'impasse de la colère. Nous sommes appelés à faire monter vers Dieu notre colère telle qu'elle est face à l'injustice subie, face à l'injustice dont nous avons été victimes, et de présenter au Seigneur donc le mal qui nous a été fait, et la rage et la violence qui sont issues de ce mal que nous avons subi, de présenter au Seigneur et de le présenter dans le détail, de le décrire dans le détail, tout le, j'allais dire, le mal que l'on voudrait faire à celui qui nous a agressé. On le présente au Seigneur parce que c'est là, c'est déjà là dans notre cœur et que nous ne savons pas quoi en faire. On le présente au Seigneur parce que nous ne savons pas quoi en faire, ça nous détruit, ou on peut devenir bourreau à notre tour, mais lui saura en faire quelque chose. Et donc on prend le temps, pas simplement avec notre intelligence, de dire « Seigneur, je te confie ma colère », ça 2 secondes c'est fait, mais notre cœur n'a pas commencé à parler. Notre cœur a besoin de décrire toute sa rage, toute sa violence et comment on voudrait l'exprimer. Et puis, ayant fait cela, ayant pris le temps de faire cela, nous pouvons demander au Seigneur Jésus la chose suivante. Seigneur, reçois mon cœur et sa rage, et toi, donne-moi ton cœur et ta miséricorde. Donne-moi ton cœur et ta miséricorde, toi qui seul, du haut de la croix, es capable de dire, Père, pardonne-leur. Parce que moi, tout seul, aujourd'hui, je ne peux pas dire en vérité, je te pardonne, je lui pardonne. Je n'en ai pas la force. Mais si ton cœur vient dans le mien, alors ton cœur comblera ce qui manque à mon cœur pour que cette parole soit vraie. Ton cœur comblera ce qui manque à mon cœur pour que cette parole soit vraie. Et cette prière, à la fois de confier la colère et de demander l'échange du cœur pour recevoir la grâce du cœur de Jésus, nous la ferons autant de fois qu'il faut pour que notre cœur soit apaisé. Le faire 10 fois, eh bien nous le ferons 10 fois. Le faire 100 fois, eh bien nous le ferons 100 fois. Le faire 10 000 fois, eh bien nous le ferons 10 000 fois. Jusqu'à ce que notre cœur reçoive du cœur de Jésus la paix. Une remarque cependant. Confier notre colère et sa rage à Dieu, nous pouvons le faire 1 fois par jour. 1 fois par jour, nous avons vraiment cette légitimité à prendre le temps qu'il faut pour déposer notre colère et notre rage dans le cœur du Seigneur. Ça, c'est notre nature blessée qui parle. Mais vous savez bien que parfois, ce sont des choses qui tournent en rond dans notre esprit, dans notre cœur. Et en fait, là, le tentateur essaie de nous enfermer dans la rage de notre cœur. Quand nous avons l'impression de tourner en rond, nous sommes appelés alors à dire « Non ». J'ai déjà confié ma colère aujourd'hui, donc je sais que maintenant c'est le tentateur qui veut m'enfermer là-dedans. Demain, je la confierai à nouveau, mais aujourd'hui, j'ai le temps de vivre, j'ai le droit de vivre. 1 fois par jour, nous pouvons présenter notre nature blessée, mais si ça revient, non, Demain, nous le referons. Aujourd'hui, nous avons le droit de vivre. Voilà ce que je voulais vous partager à partir de ce psaume 136-137. Je vous souhaite de bons échanges.